Philippe Hildebrandt est un spéculateur et doit démissionner. C'est en substance ce qu'a déclaré Christophe Blocher lors d'une conférence de presse à Rorschach dans le canton de Saint-Gall. L'Allemagne et la République tchèque recommandent aujourd'hui le retrait des prothèses mammaires défectueuses de la société française PIP. Londres estime de son côté une telle recommandation injustifiée. En hockey sur glace, Fribourg-Oteron reste en tête de Ligue nationale A. Dans le cadre de la 38e journée, les Fribourgeois ont battu Berne 4-3. Demain, à part de rares éclaircies en pleine, le temps sera principalement nuageux avec des averses toute la journée. La limite pluie-neige se situera en pleine le matin et remontera vers 1000 mètres le soir. Les prévisions complètes de Stéphanie Kohler en fin de journal. Christophe Blocher ne croit pas en l'innocence de Philippe Hildebrandt dans l'affaire des transactions de devises effectuées sur son compte, et cela en dépit des expertises qui l'ont blanchi. Cet après-midi à Saint-Gall, le vice-président de l'UDC a déclaré que le président de la BNS n'était plus digne d'être soutenu. Explication Nicole Lamont.
Philippe Hildebrandt est un spéculateur, il doit quitter son poste. C'est ce qu'a martelé Christophe Blocher, confirmant enfin son rôle de dénonciateur dans cette affaire. Donnant sa version des faits, l'ancien ministre de la Justice a surtout rappelé des éléments déjà connus. Mais il a refusé de dire comment il avait pris connaissance de ces informations. « Je sais qu'il existe plusieurs sources et plusieurs banques sont concernées, mais je ne connais pas les informateurs », a-t-il encore précisé. De son côté, la banque Sarrazin a porté plainte contre des tiers et contre son ex-informaticien qui a volé des données appartenant au président de la BNS. Dans cette affaire, la prochaine étape importante pour Philippe Hildebrandt aura lieu devant les élus. La commission de l'économie du Conseil national l'auditionnera ce lundi. Le président du Conseil de banque et la ministre des Finances Evelyne Wilmer-Schlumpf seront également entendus.
Et le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonadi, affirme que contrairement à ce qu'il a déclaré, Christophe Blocher aurait réellement présenté à Micheline Calmiret un document comportant les transactions de Philippe Hildebrandt. C'est ce qui aurait permis à la présidente de la Confédération à l'époque d'ordonner un audit de tous les comptes bancaires de la famille Hildebrandt. André Simonadi, porte-parole du Conseil fédéral.
Lors de cette rencontre, Monsieur Blocher a présenté à la présidente de la Confédération de l'époque, Madame Micheline Calmiret, un document. Quatre autres personnes de l'administration fédérale étaient présentes, dont un spécialiste de la police criminelle fédérale qui devait examiner ce document. Mais du point de vue de la Confédération, les quatre personnes qui étaient là ont examiné ce document. On a pu constater que ce document était une copie de mauvaise qualité de ce qui ressemblait à un extrait de compte bancaire, qu'il contenait des transactions financières. Et ce document était au nom de Monsieur Philippe Hildebrandt. La présidente de la Confédération a donné un mandat de faire un audit de tous les comptes de Monsieur Hildebrandt ainsi que de sa famille au cours de l'année 2011.
André Simonadi, interrogé par Nicole Lamont. Bruno Zuppiger n'entend pas démissionner. Malgré l'ouverture d'une procédure pénale pour détournement et gestion déloyale à son encontre, le conseiller national UDC part du principe que la présomption d'innocence vaut pour lui comme pour tout citoyen. Bruno Zuppiger, impliqué dans une affaire de détournement d'héritage, avait dû renoncer in extremis à une candidature au Conseil fédéral au mois de décembre. La France est prête à introduire, avec ou sans l'Allemagne, une taxe sur les transactions financières. C'est ce qu'a déclaré Henri Guénot, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Défendu l'an dernier par le chef de l'État dans le cadre de la présidence française du G20, cette taxe verra le jour dans le courant de l'année, a précisé le ministre de l'Économie et des Finances François Baroin. De Paris, Mehmet Gultas.
Nicolas Sarkozy parle, mais n'agit pas. À un peu plus de 3 mois d'élection présidentielle, le chef de l'État français est bien décidé à démentir cette critique. D'où l'accélération du calendrier des réformes promises, mais pas encore réalisées, dont la taxe sur les transactions financières. Un instrument défendu bec et ongle par Nicolas Sarkozy au cours de la présidence française du G20. Défendu, mais pas concrétisé, les États-Unis et la Chine s'y étant opposés. Le président français espérait que l'idée serait mieux accueillie au sein de l'Union européenne, mais c'était sans compter avec l'opposition des Britanniques, peu enclin à porter un coup à la compétitivité de la place financière londonienne. D'où l'idée de n'impliquer que le couple franco-allemand, mais Berlin a fait savoir qu'elle ne soutiendrait qu'une solution européenne. Reste la seule hexagone, Nicolas Sarkozy serait prêt à en faire un exemple, au grand dam du président de la BNP Paribas. Le dirigeant de la première banque du pays prévoit alors une délocalisation hors de France des activités taxées, reprenant ainsi une des critiques principales contre la taxe Tobin. Elle n'a de sens que si tout le monde l'applique. Mehmet Gultas, Radio Suisse Romande, Paris.
Le Conseil national syrien, qui regroupe la majorité des courants de l'opposition, accuse le régime du président Bachar al-Assad d'être derrière l'attentat suicide sanglant commis ce matin à Damas et demande l'ouverture d'une enquête internationale. Cet attentat suicide aurait fait au moins 26 morts, deux semaines après une attaque similaire qui avait fait 44 morts en visant des bâtiments de la sécurité. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers la Syrie pour réclamer que l'ONU intervienne pour faire cesser la répression sanglante de la révolte contre le régime. Au Nigeria, de nouvelles attaques contre des chrétiens ont fait plus d'une vingtaine de morts dans le nord-est du pays. Des attaques revendiquées par la secte islamiste Boko Haram. Hier, deux attaques similaires avaient fait déjà 11 morts, deux jours après la fin de l'ultimatum des islamistes de Boko Haram aux chrétiens pour qu'ils quittent le nord du pays. Les actions se poursuivent sur les sites menacés de Petroplus, notamment en France. Côté Suisse, le conseiller d'État neuchâtelois Thierry Grosjean a rencontré aujourd'hui la direction et les collaborateurs de Petroplus sur le site de Cressier. Il espère la poursuite de l'exploitation ou la reprise du site par un groupe tiers. Pour sa part, le syndicat Unia demande l'intervention active du Conseil fédéral. Le président du groupe français PIP, à l'origine des prothèses mammaires défectueuses, a reconnu devant les enquêteurs qu'il déjouait les contrôles de l'organisme certificateur. Après la France, l'Allemagne et la République tchèque recommandent, elles aussi, le retrait des prothèses mammaires défectueuses qui concerneraient 400 à 500 000 femmes dans le monde. De son côté, le ministère de la Santé britannique indique aujourd'hui n'avoir trouvé aucun élément justifiant une telle mesure. Environ 40 000 femmes portent de tels implants au Royaume-Uni. À Londres, les précisions de Catherine Illich.
Le gouvernement britannique s'est appuyé sur une enquête d'experts médicaux pour formuler ses recommandations. Selon leurs conclusions, les implants PIP ne comportent pas davantage de risques que d'autres implants et aucun lien n'a pu être établi avec le cancer. Pour ces raisons, le gouvernement ne recommande pas de retrait généralisé. Cependant, les femmes qui ont été opérées par le biais du NHS, le Service National de Santé, pourront, si elles sont inquiètes, se faire enlever leur implant gratuitement. Mais elles ne représentent que 5% du nombre total des femmes qui portent des implants PIP. La majorité d'entre elles ont été soignées dans des cliniques privées qui ne proposent pas toutes des consultations gratuites. Un problème pour le gouvernement qui ne souhaite pas être le seul à payer la facture. Et il l'a bien fait comprendre lors de son annonce. Il a souligné que les cliniques privées devaient offrir les mêmes garanties que le service de santé publique. Catherine Illich, Radio Suisse Romande, Londres.
Et les déodorants, quant à eux, ne sont pas inoffensifs pour les cellules mammaires. C'est ce qu'établit une étude en biologie cellulaire de l'Université de Genève, dont les résultats ont été communiqués aujourd'hui. Cette recherche met en évidence les effets néfastes des sels d'aluminium présents dans presque tous les déodorants classiques qui entraînent des transformations malignes dans les cellules. L'étude ne va pas jusqu'à affirmer que les sels d'aluminium provoquent le cancer du sein, mais elle fournit une preuve scientifique de leur nocivité. Le chercheur en biologie, Stefano Mandriota.
Oui, parce que de la part d'une molécule inoffensive qui est présente à des concentrations élevées dans pratiquement tous les déodorants qui sont présents dans le commerce, vous n'attendrez pas un comportement pareil. Moi, franchement, j'ai été surpris. Disons, on a commencé ces expériences par pure curiosité et puis j'imaginais pas, par exemple, que les cellules incubées avec l'aluminium à des concentrations qui sont largement inférieures par rapport à celles présentes dans les déodorants, développent des cassures double brin de l'ADN. Chaque fois que vous produisez une cassure dans l'ADN, vous augmentez la chance de mutation à cause du fait que l'ADN n'est pas réparé de la bonne manière. Et puis, ce n'est pas vraiment le comportement qu'on attendrait de la part d'une molécule inoffensive.
Des propos recueillis par Jérôme Jeannin. Dans le Chablais vaudois, le courant est rétabli dans la plupart des foyers touchés par une panne d'électricité depuis hier soir. Les abondantes chutes de neige accompagnant la tempête Andrea ont provoqué des perturbations sur le réseau électrique. À noter que le train Aigle CP Diableré est hors service. En cause, les chutes d'arbres sur les voies. On ignore encore quand le tronçon CP Diableré sera à nouveau fonctionnel. Un service de bus a été mis en place. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron reste en tête de Ligue nationale A. Dans le cadre de la 38e journée à l'Intévo, les Fribourgeois ont battu Berne à Saint-Léonard.
Le cinquième derby d'Itzeringen de la saison a tenu toutes ses promesses dans une patinoire comble en présence de 6800 spectateurs. Fribourg-Gotteron s'est imposé face au CP Berne 4-3 grâce à des réussites de Birbaum en supériorité numérique, de Sprunger, Azani et Heinz. Les Fribourgeois ont toujours mené au score. Berne a quelque peu semé le trouble en profitant des erreurs de Gotteron pour égaliser à deux reprises. Mais Sean Heinz fait l'auteur du but de la victoire à la 54e. Le 4-2, même si Berne a encore pu réduire le score à 23 secondes de la sirène alors qu'il avait sorti son gardien. Fribourg-Gotteron s'impose, Fribourg-Gotteron réalise une excellente opération puisqu'il conforte sa position de leader. Et sur les autres patinoires, Zoug s'est imposé en Brie 4-2, Zurich a battu Rapperswil sur le même score de 4-2 et Langnau s'est imposé à Lugano après prolongation 4-3.
Roger Federer ne disputera pas sa première finale de l'année à Doha, au Qatar. Le Balois, qui souffre du dos, a déclaré forfait pour la demi-finale qui devait l'opposer au Français Joe Wilfried Tsonga. Sa participation à l'Open d'Australie à partir du 16 janvier n'est pas remise en cause. Quant à Joe Wilfried Tsonga, il affrontera demain un autre Français, Gaël Monfils. Pour la première fois de son histoire, le rallye Red Dakar a été bloqué de façon imprévisible par de fortes chutes de neige sur la cordillère des Andes, au col San Francisco, et a dû annuler la 6e étape de sa 33e édition entre Fiambala en Argentine et Copiapó au Chili. La bourse suisse a clôturé dans le rouge. L'indice principal SMI a perdu 0,21% à 6013 points. À New York, le Dow Jones perd 0,44%. Le Nasdaq prend quant à lui 0,15% et reste à prendre des nouvelles du ciel. Les prévisions météo, Stéphanie Koller.
Le ciel va partiellement se découvrir cette nuit. Demain matin, il sera d'abord clair, puis se remplira de nuages peu après le lever du jour. Ensuite, malgré de rares éclaircies, en pleine, le temps sera principalement nuageux. Les averses débuteront dès la fin de la matinée et se poursuivront tout au long de la journée. D'abord en pleine, la limite pluie-neige remontera aux environs 2000 mètres en cours de journée. En montagne, un vent de secteur ouest sera fort, voire tempétueux. En pleine, un vent de sud-ouest soufflera sur le plateau. Dimanche, le ciel sera très nuageux en montagne, avec des chutes de neige, plus fréquentes le long du versant nord des Alpes. En pleine, le temps sera changeant, accompagné de quelques faibles averses irrégulières. La limite pluie-neige se situera entre 500